Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour un autre épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses pages les plus insolites. On pourrait intituler le récit d'aujourd'hui « Quand Dieu se prend pour un boulanger ». On va regarder ça vient du livre d'Ézéchiel. Saviez-vous que vous pouvez même encore aujourd'hui manger des céréales bibliques? Eh oui, on trouve de tout dans la Bible, même une recette vieille de plus de 2500 ans. Alors, on va regarder cette recette transmise dans le livre d'Ézéchiel et vous allez voir qu'il y a quand même un mode de cuisson assez particulier. C'est à la fois cocasse, mais aussi un peu répugnant. Mais bon, ça va nous permettre de réfléchir aux actions prophétiques. Normalement, au début de chaque émission, je vous donne la parole et je lis un des courriels qu'on reçoit ici. Mais cette semaine, je voulais prendre un temps pour vous présenter mon dernier bébé. Je me promenais lundi dernier par hasard dans une librairie de Renaud-Bray et j'ai vu pour la première fois ce petit bébé qui vient de sortir. C'est bien entendu mon dernier livre. En fait, c'est un petit carnet. C'est un petit carnet de spiritualité biblique. Alors, c'est pas un grand livre, c'est quand même tout petit, mais c'est très intéressant. C'est différentes pensées et tout ça, qui est écrit pour Novalis. Ça s'intitule « L'amour dans la Bible ». Je vous lis la présentation de l'éditeur. « All you need is love ». Bien avant les Beatles, la Bible chantait aussi les multiples vertus de l'amour. C'est sur cet étonnant constat que l'auteur ouvre sa démonstration. Pourtant, il faut savoir que la Bible laisse une place prépondérante aux sentiments. L'amour biblique est d'ailleurs synonyme de passion, d'érotisme, de spiritualité, mais aussi d'entraide, d'amitié ou encore de tendresse. Or, une telle interprétation ne peut tendre que vers l'amour de Dieu et des autres, puisque l'essentiel de la Bible se résume ainsi: aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Nous sommes donc bien loin de l'ancienne morale chrétienne qui offrait une vision pessimiste du rapport à l'autre et de l'acte charnel. Le livre de la Genèse précise même que les couples quitteraient leurs parents pour devenir une seule chair. Ce thème de l'unité est repris pour parler du lien de communion entre Dieu, Jésus et les chrétiens. Dans notre monde marqué par l'individualisme, cet appel à l'unité devrait nous interpeller à penser aux autres et à développer notre empathie. Alors, ça c'était la présentation de l'éditeur du livre qui s'intitule « L'amour dans la Bible ». Si ça vous intéresse, vous pouvez le commander par le site web de Novalis, novalis.ca, ou dans une librairie près de chez vous. Alors, je vous rappelle le titre « L'amour dans la Bible » par Sébastien Daune. Alors, la semaine prochaine, on va revenir à vos réactions, vos commentaires, vos questions. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vous rappelle l'adresse, c'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. On poursuit avec un peu de musique, puis on va découvrir le fameux geste prophétique d'Ézéchiel qui va nous transmettre en même temps une excellente recette de pain. On trouve de tout dans la Bible, même une recette qui est vieille de plus de 2500 ans. C'est une recette pour faire du pain. On va commencer par l'écouter pour voir c'est quoi dont il s'agit. Avant de l'écouter, il faut savoir que c'est Dieu qui parle. Dieu transmet cette recette-là au prophète Ézéchiel. Puis, on va voir aussi comment ça va jouer un rôle prophétique. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, tournez les pages pour trouver le livre d'Ézéchiel. C'est au chapitre 4, verset 9. On écoute ça.
Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un récipient, tu t'en feras du pain. pendant ces jours où tu seras couché sur le côté, 390 tu en mangeras. »
Cette recette est donnée par Dieu au prophète Ézéchiel. Pour la comprendre, il faut savoir qu'elle est placée au cœur des annonces de la destruction de la ville de Jérusalem. Pour symboliser le prochain siège de la ville qui s'en vient, Dieu demande à Ézéchiel d'accomplir toutes sortes de gestes prophétiques, comme celui de se coucher par terre sur le côté pendant 390 jours pour manger de ce pain-là. Et vous pouvez probablement comprendre que les 390 jours symbolisent quelque chose. C'est pas un hasard, ce chiffre-là. Et on peut le trouver, ce chiffre-là, en additionnant tous les chiffres de la lignée des rois. Dans le livre des rois, si on prend toutes les années qui ont été où il y a eu des rois qui régnaient sur le royaume d'Israël, ça donne 390 ans. Là, dans notre texte, ils vont transposer ces 390 années-là pour 390 jours. Alors, le prophète va représenter ça. C'est quelque chose comme les années de péché du peuple, parce que le texte va être très critique par rapport aux années des rois, surtout après la séparation entre les deux royaumes. Et ce qui va arriver, c'est la chute de Jérusalem. Ça se passe en 587 avant Jésus-Christ, suite à un long siège où il va y avoir la famine et il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Alors, les jours de privation du prophète vont correspondre aux années depuis la division en deux royaumes. La recette de pain va nécessiter une cuisson particulière. On va voir ça, on va écouter un autre extrait. Dieu va préciser comment faut faire cuire ce pain-là. Vous allez voir, c'est à la fois cocasse et même un petit peu dégoûtant. Mais bon, on va écouter ça, vous allez voir, c'est assez particulier. Ézéchiel, chapitre 4, les versets 12 à 15. On en reparle tout de suite après.
« Tu mangeras ton pain en forme de galette d'orge. Tu le feras cuire sous leurs yeux sur un tas d'excréments humains. Le Seigneur dit, c'est ainsi que les fils d'Israël mangeront un pain impur parmi les nations où je les disperserai. Je répondis, Seigneur Dieu, je ne me suis jamais souillé. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mangé de bête crevée ou déchiquetée, et il n'est jamais entré dans ma bouche de viande immonde. Il me dit, eh bien, je t'accorde de la bouse de vache au lieu du tas d'excréments humains. Tu cuiras ton pain dessus. »
Quelle horreur! C'est horrible, hein? Quel contraste entre la belle recette de pain qui était donnée précédemment, où on parlait de toutes sortes de grains, de blé, d'orge, et là, tout d'un coup, on passe aux excréments humains qui sont utilisés comme combustible. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais Dieu demande à Ézéchiel de cuire son pain sur des excréments humains. Bien, c'est tout simplement parce que lors du siège de Jérusalem, lorsque l'armée de Babylone va entourer la ville, il va y avoir une famine, une soif, et les habitants vont presque, il y en a plusieurs qui vont mourir même. Alors, on peut facilement s'imaginer toutes les scènes horribles de la vie dans une ville assiégée. Alors, ce siège-là va durer des mois et des mois. Plusieurs vont y laisser la peau, et on va manquer de tout, incluant de bois, de ce qu'il faut pour pouvoir chauffer et cuire les aliments. Alors, le seul combustible qu'on pouvait trouver dans la ville, c'était les excréments, même des excréments humains. Alors, il y a donc un fondement historique qu'on peut se douter à ce récit-là. C'est quelque chose qu'on a vécu. Alors, quand c'est écrit dans le texte d'Ézéchiel, on se rappelle, oui, effectivement, ça correspond à notre réalité. La réaction d'Ézéchiel, quand il entend dire de Dieu qu'il faut fasse cuire ce pain-là sur ses propres excréments, il réagit fortement, il ne veut pas, parce que pour lui, ces excréments-là le rend impur, lui qui s'est toujours gardé pur toute sa vie. Dieu va lui accorder de prendre de la bouse de vache. Moi, je peux juste m'imaginer l'odeur de la cuisson de ce pain-là, ça devait être épouvantable, mais au moins, pour Ézéchiel, ça semble moins pire, il accepte parce que ce n'est pas ses propres excréments et il ne serait pas impur à cause de ça. Par ailleurs, il faut dire que dans ce coin-là du monde, dans le Proche-Orient ancien à cette époque-là, c'était courant d'utiliser de la bouse de vache pour la cuisson. Ça faisait partie de la culture, c'était quelque chose qui était possible. Le récit précise que le pauvre Ézéchiel devra manger une ration de 20 cycles de ce pain par jour, et cela jour après jour. Vous ne savez probablement pas c'est combien ça, 20 cycles. Bien, j'ai fait des petites recherches, puis ça équivaut à moins de 200 grammes. Donc, ce n'est pas grand-chose. Ça annonce la famine qui vient. Ézéchiel n'aura rien d'autre à manger qu'un peu de pain. Et cette nourriture-là, en plus, ça va être monotone et obligatoire. À tous les jours, pendant 390 jours, il va devoir se coucher par terre sur le côté et manger cette petite ration de pain-là qui a été cuit sur de la bouse de vache. Bon, est-ce que historiquement le prophète Ézéchiel a posé une telle action ou non? Ça, on ne le sait pas, parce que bien entendu, ces textes-là sont écrits plus tardivement, mais on voit que le geste est prophétique et semble très bien aller avec le contexte. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que la ville de Jérusalem va finir par être détruite par Nabuchodonosor, roi de Babylone, suite aux différents sièges, et c'est en 587 que ça va se passer. Alors, dans ce livre-là, le prophète accomplit plein d'actions prophétiques, des actions inusitées pour essayer de réveiller le peuple et dire « il faut faire de quoi, on va se faire détruire là ». Et bon, une autre célèbre action prophétique qu'Ézéchiel va entreprendre, qui a un rapport avec la nourriture, c'est de manger un livre enroulé. Alors, il mange un rouleau de la Bible, dans le fond, et dans sa bouche, va prendre un goût de miel. Alors, c'est pas la première fois, donc, qu'Ézéchiel va faire une action prophétique liée à la nourriture. Le rouleau qu'il mange, ça, vous retrouverez ça au chapitre 3, les versets 1 à 3. On va pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez le retrouver par vous-même si ça vous intéresse. Après un peu de musique, je vous donne une recette contemporaine qui est inspirée de ce récit biblique-là. Et vous savez, il y a même une compagnie qui vend des céréales et du pain avec cette recette-là. On va écouter ça, mais on va aussi réfléchir sur les actions prophétiques aujourd'hui dans notre société. Vous êtes à l'écoute de Radio Ville-Marie dans la série « Récits insolites de la Bible » avec Sébastien Dorn. Aujourd'hui, on a lu un texte assez particulier qui vient du livre d'Ézéchiel, qui nous présentait tout simplement une recette que Dieu avait donnée au prophète. Une recette de pain qu'il devait manger. En principe, il devait la faire cuire sur ses propres excréments. Il a négocié avec Dieu, finalement, il a fait ça sur de la bouse de vache. Et ce geste de manger ce pain-là était prophétique, puisqu'il n'avait qu'une simple petite ration et qu'il n'y avait rien d'autre pour combustible que des excréments. Alors, c'était pour montrer que la famine allait venir puisqu'il y allait avoir le siège autour de la ville de Jérusalem et que tout le monde allait mourir de la famine. Et ultimement, on le sait, Jérusalem a été détruite. Donc, c'était une action prophétique du prophète pour réveiller les personnes qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, quand on lit ça, on peut trouver ça quand même assez particulier, cette recette qui nous vient d'un autre monde, qui vient d'il y a 2500 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont essayé de réaliser du pain avec ça. Et je vais vous donner une première recette que j'ai trouvée sur Internet. Il y a plusieurs recettes qui circulent. Celle-là nous vient de Nicolas Tiarapica, qui est sur un site web qui c'est www.allello.com. Allelou.com. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller là. Si vous avez un crayon, un papier entre les mains, vous pouvez même la prendre en note. Si jamais vous n'en avez pas proche de vous, écrivez-moi par courriel, puis je vais vous la transmettre. Notre courriel, c'est le courriel habituel, hein? auditoire@radiovm.com. Donc, la recette pour donner 2 miches de pain, je vous la lis. Si vous voulez prendre des notes, c'est à vous. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez toujours m'écrire et je vais vous la retransmettre. Alors, il faut commencer par faire un mélange de levure. On prend une espèce de grand saladier dans lequel on place 1 litre d'eau tiède. Alors, pas froide, il faut qu'elle soit tiède pour activer les levures. On va y incorporer 250 ml de miel, un peu d'huile d'olive, 125 ml d'huile d'olive, les fameuses levures. On suggère 15 g de levure déshydratée active. On mélange ça un petit peu, puis on va laisser reposer ça pendant 3 à 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va se retourner vers les grains et les haricots. Parce que notre recette biblique, c'est essentiellement ça. C'est différents grains qui sont mis ensemble. Alors, la recette nous suggère de prendre 470 g de grains de froment, 180 g de farine d'épeautre, 90 g d'orge, 100 g de millet, 50 g de lentilles vertes sèches, 25 g d'haricots secs, 25 g d'haricots pinto secs, ça c'est les roses. Et tous ces haricots et ces grains-là, on les moud. Il faut les moudre avec un moulin à farine. Et ça va donner une espèce de farine qui va être fraîchement moulue. On ajoute un petit peu de sel et on met ça avec la levure qu'on a préparée. On va tourner tout ça, mélanger tout ça jusqu'à temps pendant une dizaine de minutes, jusqu'à temps que la pâte devienne une espèce de pâte de crêpe à peu près. Là. Ça ressemble à de la crêpe. Et on verse ça dans les moules à pain, normalement dans deux moules pour donner deux miches de pain. On fait lever dans un endroit tiède pendant une heure environ. Et lorsque ça a levé d'une façon acceptable, on peut mettre ça dans le four. On va le cuire à 175 degrés Celsius pendant... ça doit être Celsius, c'est ça qui est marqué sur ma feuille. On va prendre ça pendant 45 à 50 minutes ou jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Pour ceux qui ne sont pas très, très boulangers ou qui ne veulent pas se mettre la main à la pâte, hein, c'est rare aujourd'hui de faire son propre pain. Il faut quand même prendre un certain temps pour ça. Il y a une alternative. Il y a une compagnie qui s'appelle Food for Life qui a proposé toute une gamme de produits dérivés de cette recette transmise par le livre d'Ézéchiel. C'est assez comique. C'est un homme qui s'appelle Gary Torres, qui vient de la Californie, un endroit où on retrouve toutes sortes de choses un petit peu grano des fois. Hein. C'est un directeur de la compagnie... mon Dieu, je retrouve le nom, Food for Life, et vont développer pain, céréales, même pâtes, à partir des grains germés qui est inspiré de ce verset de la Bible. D'ailleurs, le verset en question, Ézéchiel 4, 9, qu'on a lu tout à l'heure, est écrit sur tous leurs produits. Alors, on voit Ézéchiel 4, 9 partout, et même la citation comme telle. Ils prennent les ingrédients qui sont marqués par le prophète pour les faire germer dans l'eau et ça donne des produits organiques et à la fois organiques et bibliques. Alors, la compagnie assure que tout ce qui est utilisé est kasher, donc conforme aux règles juives. Et bon, vous pouvez avoir toutes sortes d'informations sur ces produits-là sur leur site web, c'est www.foodforlife.com. En passant, ils ont aussi une autre gamme de produits à base de grains et de graines exotiques sur la base du livre de la Genèse. Alors, c'est marqué Genèse 1, 29. Cette citation-là de la Genèse, c'est « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Cela sera votre nourriture. » C'est comme la nourriture pour Adam et Ève. Par contre, dans ce verset-là, c'est beaucoup moins spécifique que celui d'Ézéchiel qu'on a vu tout à l'heure. J'ai essayé ces produits-là, entre autres les céréales Ézéchiel 4-9 avec ma petite famille, et le résultat est assez mitigé. On voit bien qu'il s'agit d'un excellent produit pour la santé, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, il nous a fallu un peu de temps pour s'habituer au goût qui manque un peu de sucre et dont les fibres sont terriblement efficaces. Plus sérieusement, comme le prophète Ézéchiel, certaines personnes ont aussi accompli des gestes prophétiques en lien avec l'alimentation, pour prendre position dans des conflits de façon non violente. On pense tout de suite à Mahatma Gandhi, par exemple, qui pratiquait des jeûnes rigoureux sur des longues périodes en guise de moyens de pression pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Et finalement, il va avoir raison, il va réussir à entreprendre de grandes choses grâce à cette action prophétique-là en lien avec l'alimentation. Un autre exemple me vient de ma famille. Je me suis rappelé des souvenirs d'enfance. J'en ai reparlé avec mon père tout à l'heure. Lorsque mon père habitait en Californie, il y avait un prêtre dans sa paroisse qui se nommait Father O'Donnell. Un jour, Father O'Donnell, il ne s'est pas présenté à la messe. Tout le monde était là, on l'attendait et il n'est jamais venu. La raison? Il s'était enchaîné au système de chauffage de l'épicerie du quartier qui vendait des raisins produits dans des conditions inacceptables par un groupe qui n'était pas syndiqué. Alors, c'est quand même... aujourd'hui, on entend ça puis on se dit... Je connais peu de prêtres qui seraient prêts à faire ça. Puis même un jour, mon père l'avait invité à une fête. Il avait accepté, mais Father O'Donnell lui avait dit, « Vous savez, je suis en plein jeûne pour des travailleurs mexicains qui travaillent dans des conditions inacceptables aux États-Unis dans les champs. » Alors, en anglais, il disait qu'il était en « hunger strike ». Alors, il arrêtait de manger pour eux. Alors, mon père lui a dit, « Oui, OK, mais tu peux-tu venir à ma fête quand même? » Finalement, il a accepté. Puis, rendu à la fête, tout ce qu'il a pu prendre, c'était un verre d'eau. Alors, lui croyait que ses gestes parlaient plus fort que des paroles et par ces gestes-là, il essayait de faire changer les choses. En passant, ce pourquoi luttait Father O'Donnell reste encore une préoccupation. Hein. Ici même, au Québec, au Canada, l'été, la plupart des travailleurs aux champs qui ramassent les fruits et les légumes, c'est des Mexicains et d'autres personnes d'Amérique latine qui viennent ici lors des récoltes. Plusieurs organismes dénoncent certaines des pratiques abusives. Par exemple, j'ai lu sur plusieurs sites tout à l'heure qu'ils peuvent être envoyés sous n'importe quel prétexte, que 90 % du temps, leur passeport et tous leurs papiers sont confisqués par leur employeur. Puis les conditions de travail, les conditions de logement sont parfois assez horribles et assez difficiles. Des témoignages parlent de semaines de travail de 80 heures de semaine, par semaine. C'est des personnes qui peuvent vivre des situations où ils sont maltraités, ignorés, exploités parce qu'ils ne connaissent pas le monde dans lequel ils sont. Ils ne connaissent pas leurs droits non plus. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se lever, faire quelque chose? Tout à l'heure, je vous parlais de Father O'Donnell qui s'était enchaîné dans une épicerie. Nous, on pense à ça, on se dit « Mon Dieu, il n'y a aucun prêtre qui ferait ça ou je ne connaîtrais pas grand monde qui serait prêt à faire ça. » Mais pourquoi pas? Pourquoi pas prendre position, prendre sa parole, poser un geste prophétique? Personnellement, je pense qu'on vit notre foi de façon très tranquille. On ne veut pas trop déranger, puis en même temps, on ne se laisse pas déranger. Pourtant, quand on lit la Bible, il y a des prophètes de la trempe d'Ézéchiel qui font des actes comme ceux-là. Et même pour nous, chrétiens, quand on lit le Nouveau Testament, Jésus, il dérange. Il va au temple, il renverse les tables de change, et ultimement, il va se faire crucifier parce qu'il dérange trop, justement, autour de lui. Et on peut se poser la question, si Ézéchiel, si Jésus était ici parmi nous, qu'est-ce qu'il ferait? En tout cas, je pense qu'ils sortiraient du lot, puis eux essaieraient de sortir de ne pas déranger, là. Tout à l'heure, j'ai mentionné la cause des travailleurs migrants, mais il y a tellement d'autres causes importantes aussi à défendre. Hein. C'est à vous à voir qu'est-ce qui m'indigne puis qu'est-ce que je veux faire pour essayer de changer le monde. Puis aujourd'hui, je crois que nos actions prophétiques doivent être différentes. À l'heure de la communication des médias, il y a d'autres façons de faire qui, je crois, pourraient faire advenir un royaume meilleur, un royaume de Dieu ici et maintenant, par des actions prophétiques. Par exemple, cette semaine, je suis allé sur YouTube, Facebook, et j'ai participé à la fameuse campagne Kony 2012. Ceux qui sont sur ces réseaux-là ont probablement entendu parler de ça. Imaginez-vous, c'est simplement une vidéo qui a été vue en l'espace de quelques semaines par 80 millions de personnes. Alors, 80 millions de personnes ont vu cette vidéo d'une trentaine de minutes qui veut mettre la lumière sur les problèmes des enfants soldats en Afrique. S'il y a un problème dans le monde, c'est bien celui-là. Et ils veulent mettre en lumière en particulier une personne, Kony, Joseph Kony, qui est un leader d'une armée de rebelles en Ouganda, je crois, qui justement a causé beaucoup, beaucoup de problèmes et qu'on veut faire arrêter. Et ils vont réussir. Ils veulent changer la vie des enfants de l'Afrique qui sont amenés dans des conditions horribles comme enfants soldats. Et ils veulent faire arrêter cette personne qui est responsable de la situation. Et avec le visionnement de tout le monde qui commente et qui disent que c'est important, bien, les grands de ce monde qui peuvent prendre des décisions sont en train de les prendre pour pouvoir changer ça. Alors, ils réussissent à attirer l'attention du monde sur un problème, sur le problème des enfants soldats. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas faire la même chose selon le problème qui nous inquiète le plus? Alors, l'appel est lancé. C'est à vous de voir. Est-ce qu'il va y avoir des prophètes qui vont se lever parmi nous? J'espère que oui. En tout cas, Ézéchiel nous a donné un exemple. Il y en a d'autres autour de nous. Ça sera à nous de voir comment on veut faire la suite. C'est déjà le moment de se dire à la semaine prochaine. J'espère que le récit qu'on vient d'aborder, qui parlait de ce pain, qui est recette de pain donnée par Dieu à Ézéchiel, nous a inspirés et nous a mis peut-être l'eau à la bouche pour lire la Bible et découvrir comment nous aussi, aujourd'hui, on peut essayer d'être prophète. Vous pouvez lire les récits abordés dans notre émission dans un livre qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Médiapôle. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, écrivez-nous. Nous prenons un temps au début de chaque émission pour vous lire. Alors écrivez-nous à auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. Vous avez peut-être entendu parler du prophète Jonas, surtout avec son naufrage et les 3 jours qui passent dans le ventre de la baleine. Bien, la prochaine fois, on va voir l'histoire de Jonas, qui est une espèce de prophète malgré lui, hein, puis au lieu de mettre l'accent sur la baleine, comme on le fait souvent, on va aller un petit peu plus loin dans le récit, puis on va voir que ce malheureux prophète-là va penser au suicide à plusieurs reprises. Alors, on va réfléchir un peu à ça. En terminant, merci à tous ceux qui rendent cette émission possible. Merci à Marie Laferrière pour sa lecture de la Bible. Merci à Alain Primo, notre fidèle technicien. Et finalement, merci à chacun d'entre vous pour votre écoute attentive. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.